Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 3 février 2023, il est 8h.
La matinale info, Margot Siffer.
Au programme de cette matinale, la remise hier soir du prix Charles et Annie Corin qui récompense un projet pédagogique autour de la mémoire de la Shoah. Pour l'occasion, le directeur de la rédaction de RCJ, Rudy Saada, s'est entretenu avec Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Également dans cette édition, l'actualité en Israël avec notamment la réforme du système judiciaire qui inquiète de plus en plus la société. On en parlera avec vous, Gérard Benamou. Bonjour.
Oui, bonjour Margot. Effectivement, des propos de plus en plus insistants contre la réforme du judiciaire du ministre de la Justice révèlent un très haut niveau d'angoisse au sein même de la société israélienne.
Et puis, comme chaque vendredi, vous retrouverez la chronique série de Lise Barenboim.
Cette semaine, on parle de Jeux d'influence, une série française disponible sur Arte qui dénonce les méfaits de l'agrobusiness.
Et enfin, nous reviendrons sur le 3 février dans l'histoire juive avec Jérôme Attal.
Entre la ville de Naples et les Juifs, l'histoire fut compliquée. En ce jour de 1740, Charles III, roi de Naples, signe un édit invitant les Juifs. Je vous résume l'histoire des Juifs de Naples dans un instant.
Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité.
Le journal sur RCJ.
Benjamin Netanyahou est arrivé hier soir à Paris pour un dîner avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Au cœur des discussions, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et élargir les accords d'Abraham. Le chef de l'État a également exprimé la solidarité pleine et entière de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Il a toutefois également déclaré être inquiet quant aux tensions actuelles entre Israéliens et Palestiniens. Emmanuel Macron a aussi rappelé l'attachement de l'Hexagone au statu quo et sa ferme opposition à la poursuite de la colonisation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est rendu hier au Soudan pour rencontrer le président du Conseil de transition. L'objectif, définir les étapes d'une normalisation complète entre les deux pays. Le texte d'un accord de paix a été finalisé. Il sera rendu officiel après le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Le Soudan sera le troisième État à signer un accord de paix avec Israël après l'Égypte et la Jordanie. Aux États-Unis, les Républicains ont voté hier pour expulser la représentante du Minnesota, Ilhan Omar, de la Commission des Affaires étrangères en cause de ses critiques incessantes contre Israël. Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, avait fait de sa destitution l'une de ses premières tâches après son élection le mois dernier. Washington affirme avoir repéré depuis deux jours un potentiel ballon espion dans son ciel qui proviendrait de la Chine. La décision a été prise de ne pas l'abattre en raison de risques de débris pour les personnes au sol. Cet épisode a toutefois de quoi raviver les tensions entre les deux superpuissances rivales et cela à quelques jours d'une visite prévue du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken à Pékin. Un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine se tient aujourd'hui à Kiev. Un signal fort adressé à la Russie se félicite Volodymyr Zelensky. En attendant, le ministre britannique de la Défense n'a pas exclu de lui fournir des avions de chasse. De son côté, Vladimir Poutine déclare que la Russie utilisera tout son potentiel militaire pour répondre au pays qui la menace. Pendant plus d'une demi-heure, la première ministre a défendu hier soir sur France 2 une réforme des retraites qu'elle juge indispensable. Elisabeth Borne a notamment évoqué les déficits qui vont, je la cite, s'accumuler année après année. Elle a également précisé que le texte protège les femmes qui ont commencé à travailler tôt, tout en reconnaissant à demi-mot que celles qui ne sont pas abîmées par le travail devront travailler plus longtemps.
Je peux vous assurer que cette réforme, elle protège les femmes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui sont dans des métiers difficiles, les femmes qui ont dû interrompre leur carrière, elles sont protégées par la réforme.
Mais ces situations que je viens d'évoquer précisément ?
Alors, il y a des situations de femmes comme vous et moi, auxquelles en effet, et je pense qu'on n'est pas abîmé par le travail, vous comme moi, on fait partie...
Donc vous l'assumez,
on fait
ça.
On fait partie des 6 Françaises sur 10 qui devront travailler plus longtemps jusqu'à 64 ans.
Elisabeth Borne promet aussi un débat sur la durée de cotisation des carrières longues. Enfin, la première ministre qui n'envisage pas de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter le texte s'est aussi exprimée sur la forte mobilisation sociale.
Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions. Demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, C'est un effort et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas.
À noter qu'un mouvement de grève contre la réforme des retraites de 48 heures et non plus de 72 heures est désormais prévu chez Total Energy mardi et mercredi prochain. Les salariés ne sont pas prêts dans l'immédiat à arrêter les raffineries, précise le syndicat. Un appel au blocage des lycées et des universités est également prévu le 7 février. Par ailleurs, plus de 20 000 amendements ont été déposés avant l'examen lundi du projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Après le Penelope Gate, François Fillon est menacé par un nouveau procès pour emploi fictif. Le parquet national financier a en effet bouclé son enquête sur les conditions dans lesquelles il a employé Maëlle Renouard comme assistant parlementaire. C'était entre 2013 et 2015. L'ancien Premier ministre pourrait à nouveau être jugé pour détournement de fonds publics. Un mot de culture avec le Printemps de Bourges qui dévoile sa programmation. Sont notamment attendus les chanteurs M et Juliette Armanet, tout comme Isia, Benjamin Biolay, L'Homme Pâle ou encore Bob Sinclair. L'événement se tiendra du 18 au 23 avril prochain. L'an dernier, 250 000 festivaliers s'y étaient rendus. Et enfin, après 93 sélections en bleu, le vice-capitaine de l'équipe de France de foot, Raphaël Varane, 29 ans, annonce sa retraite internationale. Il poursuit néanmoins sa carrière en club, alors même que Manchester United se bat en championnat pour une qualification en Ligue des Champions. Vous écoutez RCJ, il est 8h06. Dans un instant, l'actualité en Israël, avec notamment la réforme du système judiciaire qui inquiète de plus en plus la société. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou. RCJ.
Attention, offre exceptionnelle chez Best Fenêtre. Jusqu'au 31 décembre, pour l'achat de 3 produits, Best Fenêtre vous offre une remise de 30%. Oui, vous avez bien entendu, 30%. Best Fenêtre, une équipe de pros à votre service. Fenêtre, porte-fenêtre, volet. Appelez-nous pour un devis gratuit. Alors n'oubliez pas, jusqu'au 31 décembre, chez Best Fenêtre, des 3 produits achetés, c'est 30% de remise. Best Fenêtre, 132, rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 61 31 16. 01 43 61 31 16.
Gauthier. Depuis 60 ans, j'incarne le savoir-faire à la française. Mes meubles sont tous garantis 10 ans et je propose en ce moment des réductions sensationnelles.
Mais oui, mon petit Gauthier, bien sûr que je parle de toi.
Tu iras loin, mon petit Gauthier, tu iras loin.
Du 11 janvier au 7 février, ce sont les soldes chez Gauthier. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de produits. Vous pourrez également profiter de nos conseils déco et découvrir votre projet d'aménagement en 3D. À très bientôt chez Gauthier.
Gauthier. 45-47 boulevard du Havre, 95 220 Herblay, 09 66 98 59 83.
Meublé, vivez.
Vous avez un projet d'Alia? Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedi Dout. Le Keren Layedi Dout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les 6 premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren Layedi Dout. Keren Layedi Dout, 01 83 80 95 55 et yedidout.org.
Bonjour tout le monde, c'est Michel Vougenin, je suis sur RCJ et j'ai commencé à jouer les Adieux des Magnifiques au Théâtre de la Madeleine. Et vous savez quoi, je fais un grand kiff parce que c'est le dernier volet de la trilogie. Et qu'est-ce que je rigole avec les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui. La vérité, vous savez quoi, ils m'ont fait enregistrer ça 18 fois, j'en peux plus, je sais plus comment je m'appelle. Je vais téléphoner à ma mère, mais d'après elle, je m'appelle Michel Bougenin et je joue les Adieux des Magnifiques au Théâtre de la Madeleine et je suis sur RCJ et je suis très content et je suis très fatigué et c'est surtout eux qui m'ont fatigué. Je peux partir maintenant ?
Oui.
Merci.
Michel Bougenin dans Adieu les Magnifiques, actuellement au Théâtre de la Madeleine en partenariat avec RCJ. Infos et réservations sur théâtre-madeleine.com. RCJ.
Vous écoutez RCJ, il est 8h09 et on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Alors Gérard, en Israël, la réforme du système judiciaire inquiète de plus en plus la société.
Oui, il faut dire qu'en cette fin de semaine, certains dossiers difficiles évoqués jusqu'à présent demeurent des sujets de forte préoccupation pour les Israéliens, et notamment le devenir du système judiciaire israélien et la très lourde menace que fait peser sur la démocratie la réforme du judiciaire pensée de façon jugée extrémiste par le ministre de la Justice. Des réactions s'imposent de façon inattendue, notamment celle d'une personnalité parmi les plus illustres de l'histoire d'Israël, qui en conséquence tient des propos qui démontrent le niveau d'angoisse que cette réforme annoncée fait peser sur les citoyens israéliens.
Autre sujet, un avocat, ancien héros de la guerre de Yom Kippour, eh bien, a suscité la controverse mercredi lors d'une conférence qui était consacrée au droit.
Alors justement, nous restons dans le sujet, Margot, et cette personnalité, après avoir affirmé en particulier qu'il n'hésiterait pas à tirer à balles réelles, je cite, si le gouvernement devait poursuivre son plan controversé de refonte du système judiciaire, David Odeck, spécialiste en droit commercial, à qui avait été décernée la médaille du courage, l'une des plus hautes distinctions militaires d'Israël, pour sa conduite dans une unité de blindés au cours de la guerre de Yom Kippour en 1973, a déclaré lors de la conférence annuelle de l'Association des avocats israéliens organisée à Eilat, « Si on devait me forcer à vivre dans une dictature et qu'on ne me donne pas d'autre choix, eh bien je n'hésiterai pas à tirer à balles réelles. Oui, a-t-il insisté, les gens sont prêts à se battre et à prendre les armes si nécessaire. Selon le quotidien Maariv, certaines personnes au sein du public, surprises par ces paroles, ont applaudi Odeck, d'autres au contraire ont envisagé de porter plainte. »
Et une autre forme de contestation occupe, Gérard, le devant de la scène juridique.
Alors, selon la procureure générale, la refonte du système judiciaire crée un conflit d'intérêts pour le Premier ministre, qu'elle a d'ailleurs informé mercredi, qu'il ne pouvait pas être impliqué dans les efforts de son gouvernement pour remanier radicalement le système judiciaire, car il existe un conflit d'intérêts en raison de son procès pour corruption en cours. Un avertissement qui fait suite à une requête déposée par l'ONG Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël auprès de la Haute Cour de justice le mois dernier, exigeant que la procureure générale établisse un accord actualisé sur les conflits d'intérêts pour Netanyahou. En fin de compte, le Premier ministre a réclamé un délai de 2 semaines pour répondre pleinement à la lettre de la procureure générale. Netanyahou a déclaré hier à la Haute Cour de justice qu'il n'acceptait pas la position de la procureure générale, Gali Baharav Miara, selon laquelle son implication dans la réforme judiciaire constituait un conflit d'intérêts en raison de son procès pour corruption en cours. Cependant, dans une interview accordée à CNN mardi, le Premier ministre avait affirmé qu'il était prêt à entendre des contre-propositions dans le cadre de son plan controversé de refonte radicale du système judiciaire israélien proposé par son gouvernement, ce qui démontre en conséquence qu'il est bien impliqué dans la formulation et l'avancement de ces réformes.
L'économie est aussi convoquée, Gérard, pour révéler ses constats.
Et pour plaider également contre cette réforme, les prix des actions ont enregistré une baisse dimanche et un affaiblissement du shekel a été constaté ces derniers jours, alors que les inquiétudes des investisseurs sont croissantes face à la refonte radicale du système judiciaire qui a été proposée par le nouveau gouvernement, lequel prévoit de réduire drastiquement les capacités de la Haute Cour et pratiquement toute forme de contre-pouvoir en Israël.
Diplomatie maintenant, Gérard, avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui a effectué hier une visite diplomatique historique au Soudan.
Oui Margot, d'ailleurs nous allons revenir quelque peu sur certains propos à ce sujet que vous avez déjà énoncé. Donc Eli Cohen a rencontré le président du conseil de transition de cet État d'Afrique de l'Est, le général Abdel Fattah al-Burhan, afin de définir les étapes de normalisation complète. Au cours de la visite d'Eli Cohen, les deux parties ont finalisé le texte d'un accord de paix entre Jérusalem et Khartoum, qui sera rendu officiel lors d'une cérémonie de signature qui devrait avoir lieu après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil. Le Soudan, rappelons-le, sera le 3e pays à signer un accord de paix avec Israël après l'Égypte et la Jordanie.
Et enfin, pour terminer, Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël, accueillera son premier festival de cinéma pendant 4 week-ends. Ce sera au mois de février.
En effet, Rahat va devenir donc un centre culturel important. Plus de 40 films seront projetés, des films d'Iran, d'Italie, de France, du Kosovo, d'Espagne et d'Arabie Saoudite, et un documentaire local. Gérard Benhamou, en direct de Tel Aviv. pour RCJ.
Merci beaucoup Gérard Benhamou pour toutes ces précisions et donc à la semaine prochaine. Vous écoutez RCJ, il est 8h14 et on parlera dans un instant de la remise hier soir du prix Charles et Annie Corin qui récompense un projet pédagogique autour de la mémoire de la Shoah. Le directeur de la rédaction de RCJ, Rudy Saada, s'est entretenu pour l'occasion avec Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale.
Bain et déco.
Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret Bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, Bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
Vous cherchez le soleil, la plage et une vraie ambiance de Pessah ? Cette année encore, partironisraël.com et les luxueux hôtels Fatal vous proposent des séjours de Pessah. Vol direct plus hôtel avec deux soirs de Seder à Tel Aviv. Netanya et Eilat au meilleur prix. Pour Pessah, le soleil sera en Israël. Et vous, laissez-vous également séduire par nos séjours en vol direct Paris-Eilat pendant les vacances scolaires de février avec 7 nuits d'hôtel à partir de 999 € par personne en formule all inclusive. Départ le 26 février 2023. Renseignements réservation sur partironisraël.com ou au 01 70 70 00 49. 01 70 70 00 49.
Attention, offre exceptionnelle chez Best Fenêtre. Jusqu'au 31 décembre, pour l'achat de 3 produits, Best Fenêtre vous offre une remise de 30%. Oui, vous avez bien entendu, 30%. Best Fenêtre, une équipe de pros à votre service. Fenêtre, porte-fenêtre, volet. Appelez-nous pour un devis gratuit. Alors n'oubliez pas, jusqu'au 31 décembre, chez Best Fenêtre, des 3 produits achetés, c'est 30% de remise. Best Fenêtre, 132, rue de Bagnolet, Paris 20e, 01 43 61 31 16. 01 43 61 31 16.
Vous connaissez peut-être l'histoire de la libération des Juifs soviétiques ? Je m'appelle Victoria Géraud-Velmont et je vais vous faire une confidence. Je pensais tout connaître de cet engagement et pourtant, je n'en savais rien. Alors je suis partie à la rencontre de celles et ceux qui ont fait partie de ce combat hors du commun. À la rencontre des Juifs d'Urs, podcast inédit, à retrouver dès le 20 février sur RCJ et sur toutes les plateformes de podcast. Alors à très vite sur RCJ.
Hier soir avait lieu la remise du prix Charles et Annie Corin en présence de nombreuses personnalités de la communauté juive et du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Je vous propose d'écouter ce reportage RCJ.
Émotion et espoir hier au cœur du prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Trois classes venues de toute la France. Créé en 1989, le prix Annie et Charles Corin récompense des élèves et leurs projets autour de la transmission de la Shoah. Une émotion partagée par Élise et Sylvie Corin, les filles des initiateurs de ce prix.
On est tous émus, je crois qu'ils sont très heureux les enfants d'être là, de venir à Paris, de présenter leur projet, de montrer qu'en fait ce sont des vrais citoyens qui parlent et qui ont des choses à dire.
Ils sont vraiment acteurs, ils vont faire des recherches dans les archives, ils vont rechercher des témoins, ils vont les interviewer, ils vont faire des dessins, enfin, ils montent eux-mêmes leurs projets, aidés bien sûr par des professeurs et puis les proviseurs qui sont exceptionnels, mais c'est une implication personnelle qui laisse des traces en eux-mêmes qui est magnifique, vraiment, bien sûr.
Comptez sur nous pour être des citoyens responsables, engagés et porteurs de cette mémoire que certains veulent oublier ou même parfois nier. Rachel, Bernard et Jacques, nous ne vous oublierons jamais.
Parmi les trois projets récompensés, celui de la classe de CM2 de Coligny, près de Poitiers, menée par Patricia Duchadeuil. Elle a retrouvé dans des carnets d'appel les noms de trois enfants déportés. Avec ses élèves, elle est remontée sur leurs traces pour raconter leur histoire dans un film.
On n'était pas là, ici, dans cette école pour rien. C'est-à-dire qu'on avait à témoigner de quelque chose. Et que des enfants soient rayés comme ça... disparaissent sans pierre tombale.
Aléna et Matteo sont désormais en 5e et ce projet les a bouleversés.
Quand Madame Duchadeuil nous l'a expliqué, quand elle nous a raconté cette histoire, ça a vraiment genre ému tout le monde. Et du coup, on a passé vraiment des mois et des mois à faire ce projet. C'était vraiment quelque chose d'énorme pour toute la classe.
Je pense que ça a changé quelque chose en nous parce qu'on a envie de passer des histoires aux générations futures et de leur apprendre ce génocide massif qui s'est passé.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik dirigeait une fois de plus le jury de ce prix Corin.
Les Juifs ont reçu un coup immense, mais ils ne se soumettent pas au passé, puisqu'ils reconstruisent malgré ça. Alors je crois que ces jeunes-là, je les aime beaucoup, parce qu'ils font des enquêtes très généreuses, très bien. Ça change la représentation de ce qui nous est arrivé, et ça change leur conception.
Pour Déborah Dahan du département jeunesse du FSJU, ce prix Corin parle plus que jamais d'enseignement concret et d'universalité.
Faire comprendre à ces élèves que bah, finalement la Shoah c'est quelque chose de très universel et ça fait partie de leur histoire personnelle.
Le ministre de l'Éducation nationale avec Ariel Goldman et Élise Corin.
Églantine Delalleux. Et puis donc à l'occasion de cette remise du prix Charles et Annie Corin, notre directeur de la rédaction Rudy Saada s'est entretenu hier avec donc le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. On l'écoute.
C'est la première fois que vous présidez ce prix Corin. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous?
C'est un prix qui montre l'engagement des élèves, des classes, de leurs professeurs. Sur une question essentielle à mes yeux, qui est une question qui permet d'entrer dans la citoyenneté, c'est l'histoire, c'est-à-dire la connaissance, mais aussi la mémoire, à savoir la reconnaissance de la Shoah et de ses victimes. Et donc ce prix est un moment, une manière pour l'Éducation nationale de montrer son engagement sur l'histoire et la mémoire de la Shoah.
Alors il y a eu ce plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations qui a été dévoilé par le gouvernement en début de semaine. Parmi les mesures de ce plan, il y a la visite des lieux de mémoire. Est-ce qu'il est important, on va dire, de rendre les choses concrètes dans l'enseignement, notamment l'enseignement de la Shoah?
C'est tout à fait essentiel en effet. Des lieux de mémoire, il en est beaucoup. Il y en a des célèbres, nationaux bien sûr, mais il y a aussi des lieux de mémoire locaux, régionaux, moins connus, que les élèves et leurs classes peuvent visiter, sur lesquels ils peuvent travailler, ce qui donne à l'histoire une dimension beaucoup plus concrète, palpable. L'émotion, bien entendu, est un facteur par lequel aussi la connaissance peut se construire. Il s'agit bien sûr de l'histoire de la Shoah, mais il y a d'autres dimensions relatives à l'histoire de notre pays, l'histoire de la Première Guerre mondiale à propos du XXe siècle, et puis si on remonte un peu en arrière, des lieux relatifs par exemple à l'histoire de l'esclavage dans les Outre-mer en particulier, mais pas seulement. Bref, tout ce qui fait, tout ce qui a construit notre histoire, et hélas, dans des dimensions qui peuvent être des dimensions tragiques.
Ce prix, c'est aussi un hommage aux enseignants qui prennent l'initiative de monter des projets et qui prennent sur souvent leur temps libre pour le faire et embarquer leurs élèves avec eux. Est-ce que c'est aussi ça, ce prix Corin?
C'est très juste. Les enseignants, les professeurs d'histoire-géographie, les professeurs des écoles et tant d'autres sont engagés dans leur métier. Ils vont bien au-delà des heures de cours et de la préparation des cours, des corrections de copies. Ils sont engagés, par exemple, pour faire connaître à leurs élèves l'histoire de la Shoah, pour les sensibiliser à ce pan essentiel de notre histoire. Et je veux évidemment, à travers ce prix et à travers cette soirée, saluer leur dévouement, leur engagement pour l'Éducation nationale, bien sûr, mais aussi pour la réussite de leurs élèves.
Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes inquiet quand vous voyez la résurgence de thèses négationnistes qui, vous l'avez dit dans votre discours, sont relayées par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce qu'il y a une sorte d'effroi ou est-ce qu'il y a une envie d'agir rapidement?
Une vigilance, je dirais. Pour ce qui concerne mon ministère, nous avons un devoir qui est celui-ci précisément, celui de veiller à l'éducation, celui de veiller à ce que les jeunes de notre pays apprennent l'histoire, en particulier, mais pas seulement bien sûr, l'histoire de la Shoah. C'est absolument indispensable. Nous devons aussi les éduquer via l'éducation aux médias, aux dangers des réseaux sociaux, à tout ce qui traîne sur Internet et qui, on le sait, peut engager et mener sur des voies qui sont celles du mensonge, du négationnisme, bref, de tout ce que nous rejetons avec la dernière vigueur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire, il s'agit aussi de conscience, il s'agit aussi d'entrer dans la citoyenneté. Et donc le ministère de l'Éducation nationale est évidemment au premier rang pour lutter contre toutes ces formes parfois insidieuses de haine, de racisme et d'antisémitisme.
Ça sera ma dernière question. La communauté juive est souvent, on va dire, très meurtrie de savoir que dans certains endroits en France, on ne peut pas enseigner la Shoah de manière sereine. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour que l'on puisse le faire tranquillement, sans crainte? Et le mot crainte est un mot important.
Et cela peut arriver, en effet, que des contestations pédagogiques arrivent, par exemple à propos de l'histoire de la Shoah. Cela, évidemment, n'est pas tolérable, n'est pas admissible. Les professeurs doivent pouvoir enseigner calmement, sereinement, répondre, bien entendu, car c'est la dimension pédagogique, à des questions, parfois à des questions difficiles ou gênantes qui peuvent venir de leurs élèves, mais je suis absolument intransigeant quant à la possibilité même d'enseigner. Cela doit rester fondamental à l'école, et tous les actes de contestation pédagogique, d'une part, sont signalés, en tout cas nous souhaitons qu'ils le soient, nous ne mettons pas la poussière sous le tapis et nous agissons lorsque c'est nécessaire.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a mis la poussière sous le tapis justement au moment qu'il y a eu ce fameux pas de vague qui a créé une sorte de crainte ou même le sentiment chez certains professeurs de ne pas être écoutés quand il y avait un incident?
Cela a pu exister. Sachez que depuis de nombreuses années, ça n'est plus le cas. Nous avons, et vous avez en la personne du ministre de l'Éducation nationale, je suis historien, je vous le rappelle, une vigie tout à fait attentive à ce que toute forme de contestation pédagogique soit à la fois signalée, mais aussi, bien entendu, combattue.
Merci, monsieur le ministre.
Merci.
Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, donc au micro de Rudy Saada. Vous écoutez RCJ, il est 8h27. Comme chaque jour, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive, aujourd'hui celle du 3 février. Bonjour Jérôme.
Bonjour Margot, bonjour à tous. Naples est une ville du sud de l'Italie. La première présence juive date du début du 1er siècle de notre ère, présence attestée par des inscriptions sur des sépultures datées. Inscription en latin, suivie d'une inscription en hébreu ornée d'une menorah. Des documents des 11e et 12e siècles montrent que la communauté de Naples possédait une synagogue et une école. Les juifs jouissaient du droit de posséder des biens immobiliers et d'en disposer à leur guise. En 1290, une synagogue fut convertie en église. En 1330, Robert d'Anjou invite les juifs à s'installer à Naples, leur promettant une protection et les mêmes droits que les chrétiens. En 1496, un premier décret d'expulsion des juifs est publié. En 1533, un nouveau décret d'expulsion est publié. En 1541, l'empereur Charles Quint ordonna l'expulsion totale des juifs, et ce n'est qu'en 1735, lorsque le royaume passa aux Bourbons, que les juifs furent réadmis à Naples par un édit signé ce jour par Charles III, le 3 février 1740. Joie de courte durée, car suite aux pressions des jésuites et de l'Église, les quelques juifs qui avaient accepté l'invitation seront de nouveau expulsés en 1746. Nous sommes le 3 février.
Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h28 et on termine cette édition avec la météo de Sylvie.
Bonjour Margot, bonjour à tous. À Paris, encore de nombreux nuages, mais un temps restant sec et relativement doux avec des températures comprises entre 6 et 11 degrés au meilleur de la journée. À Nice, ciel bleu, soleil, jusque quelques nuages élevés cet après-midi et 15 degrés. Et à Tel Aviv, le temps reste instable avec un ciel très nuageux toute la journée et des averses. 16 degrés maximum. Bon Shabbat à tous nos auditeurs.
C'est la fin de cette matinale info. RCJ, ça continue en numérique sur les applis disponibles sur Apple et Android et sur le DAB+. Pour la FM, vous avez rendez-vous à 11h avec l'émission de Pensée juive du rabbin Olivier Kaufmann, suivi à 11h30 de l'émission culinaire d'Annabelle Chaque Messe. À midi, ce sera Pile Poule avec Marc Velinsky. Et puis à 13h, un livre, un lecteur présenté par Florence Berthoud. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.